Vous écoutez Radio Capi ? Merci. Je suis Karine Galimbaya, votre animatrice du week-end. Je vous invite à passer un week-end sourire avec moi. Samedi, dimanche, de 9h à 13h, heure de Kinshasa.
Le ciel congolais vient de s'enrichir de quelques nouvelles compagnies aériennes privées qui organisent des vols domestiques à travers le pays. Cependant, plusieurs compagnies aériennes congolaises sont inscrites sur la liste noire européenne car ne répondant pas aux normes de sécurité de l'aviation civile. Alors, quelles sont les conditions requises pour démarrer une entreprise aérienne? Vous avez des questions, des préoccupations par rapport à ce thème? N'attendez pas les dernières minutes, le standard est déjà ouvert. Composez le 0 81 800 96 94. Monsieur Stanislas Mwamba, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur général adjoint du groupe d'études des transports, qui est une structure du ministère
du transport et voies de communication.
Oui. Alors, dites-nous.
Un service spécialisé.
Alors, dites-nous, quelles sont les conditions requises pour ouvrir une compagnie d'aviation?
Merci pour la question. Je crois qu'avant de parler des conditions pour ouvrir pour mettre en place une société de transport aérien, je crois qu'il faut dire un mot d'abord sur notre pays. En fait, la République démocratique du Congo est membre d'une organisation internationale qu'on appelle l'Organisation internationale d'aviation civile, qui a une convention internationale, une convention de Chicago.
Mm-hmm.
Cette convention est accompagnée de 18 annexes, les annexes de l'OAC, comme on les appelle, qui définissent des normes pour tout ce qui est exploitation des transports aériens et de l'aviation en général.
Mmh.
Et le pays, en tant que membre de cette organisation, se doit d'appliquer justement toutes les normes qui sont prescrites dans ces différentes conventions. Ça, c'est une parenthèse pour vous dire qu'en fait, cette convention et ces annexes sont faites parce qu'en aviation, il faut de la sécurité dans la navigation aérienne.
Mmh.
Il faut une rigueur dans la sécurité. Alors, pour cette rigueur, c'est ainsi qu'il y a toutes ces annexes qui existent. Et c'est ainsi que le pays qui est membre de l'OACI, pour justement autoriser que les gens viennent exploiter, a essayé aussi de faire un code de l'aviation civile au niveau du pays, donc la loi sur l'aviation civile, dans lequel il faut justement essayer de traduire toutes ces annexes pour que l'opérateur qui vient, qui veut exploiter le transport aérien, mmh. puisse répondre à ces conditions-là.
Alors, maintenant,
quelles sont ces conditions?
Mmh.
En fait, ces conditions se répartissent sur plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est l'aspect d'abord juridique. Le second aspect, c'est l'aspect technique. Et puis, l'aspect opérationnel. Juridique, parce qu'en fait, quand un opérateur économique veut exploiter le transport aérien, il faut d'abord qu'il soit juridiquement reconnu. Ça signifie qu'il ait un statut, qu'il puisse avoir justifié qu'il a une numéro d'identité nationale, qu'il a une numéro de commerce. Donc, il faut que ce soit un établissement reconnu pour pouvoir faire du commerce. Parce qu'en fait, le transport aérien, c'est une activité commerciale.
Mm-hmm.
Donc, on ne peut pas s'engager dans une activité tant qu'on n'a pas juridiquement les tests qu'il faut. Donc,
et quel est le service qui délivre les autorisations des consommateurs?
On arrivera au. Ça fait partie des aspects. Donc, tous ces aspects-là.
Mm-hmm.
Si tu veux, on peut commencer par la procédure. Procédure dans les conditions, il faut d'abord s'adresser au ministre du Transport et des Communications.
Mm-hmm.
Donc, on s'adresse au ministre du Transport et des Communications qui examine le dossier. Ce n'est pas lui qui est le technicien, il est entouré du technicien. Ce technicien se trouve au niveau de l'autorité de l'aviation civile, qu'on appelle en abrégé AAC.
Mmh.
Bon. Alors, c'est l'AAC qui va examiner la demande qui a été introduite, et c'est là que se trouve un formulaire qui donne justement les conditions pour être commerçant, pour être opérateur économique dans le secteur du transport.
Mmh.
Et ces conditions se répartissent justement sur le volet que je venais de dire. Le premier volet, c'est d'abord le volet juridique. Donc, il faut que la société existe, qu'elle ait des statuts, un personnel, comment elle va fonctionner, etc. Tout ça se trouve dans le statut, numéro d'identité, etc. Maintenant, puisqu'il s'agit du transport aérien, vous comprenez qu'il faut l'outil d'exploitation.
Mmh. L'outil d'exploitation, des avions.
Des avions.
Mmh.
Et quand on achète les avions, il faut que ces avions soient en état de navigabilité. C'est là la nerf de guerre.
Mmh.
C'est là qu'on se pose des problèmes.
Oui.
Quand on achète des avions, en termes d'aviation, on parle des avions en état de navigabilité. On ne parle pas des avions neufs ou des avions d'occasion. Les experts parlent des avions en état de navigabilité.
C'est-à-dire,
ça signifie qu'un avion peut être neuf. Vous l'achetez, le tout neuf, ce sont des usines. Il vient dans la compagnie. Vous devez l'exploiter. Mais cet avion a des exigences. Il dit, pour l'exploiter, voilà, toutes les 50 heures. Toutes les 100 heures, voilà ce qu'il faut faire comme contrôle, comme check sur l'avion. Si vous ratez de faire un seul contrôle sur l'avion, l'avion va se couler au sol. Parce qu'en fait, il y a des inspecteurs de l'autorité de l'aviation civile qui vont constater qu'effectivement, votre avion n'a pas suivi le programme d'entretien tel que l'avion a été prévu. Donc, même un avion qui n'a que 1000 heures de vol, ça signifie qu'il a été exploité au bout d'un an. Parce qu'en fait, l'exploitation moyenne, c'est autour de 1000, 1200 heures, et puis c'est nous. C'est un avion tout neuf, mais vous n'avez pas respecté les normes en matière de maintenance.
Donc, le contrôle technique doit être fait après chaque 50 heures.
Non, ça dépend du type d'avion. Ça dépend du type d'avion. Il y a des contrôles qui se font chaque jour. Parce que quand l'avion atteint un vol et qu'il revient le soir, et qu'il doit repasser le lendemain, il y aura un check qui va se faire. Donc, il y a des checks avant le pré-vol, comme on dit, juste avant le vol, on doit le faire. Donc, chaque jour, l'avion subit de contrôle. Ce n'est pas comme le cas des véhicules qui ils font le transport public toute la journée, ils rentrent le soir. Si vous vous rappelez à l'époque de celui qui avait les bus, les taxis bus de foule à foule dans la ville, Congo Motor, c'est Congo Motor qui André Motor.
Oui.
Ces bus, quand ils rentraient chaque soir, on devait faire du contrôle, donc on devait faire les vidanges, vérifier les freins,
voir l'état du moteur, tout ça.
On devait tout faire chaque soir.
Oui.
Et c'est ce qui donc se fait sur les avions. Et chaque jour, donc on doit vérifier, parce que quand l'avion a fait un vol, l'équipage a un document, CRM de contrôle, un document à bord, sur lequel il marque tout ce qui n'a pas marché sur l'avion au courant du vol. Et quand l'avion arrive, on doit remettre ce document. L'équipe de la maintenance vient prendre ce document pour voir ce qui n'a pas marché sur l'avion. Et le soir même doit s'atteler pour mettre l'avion en état de navigation. Et le lendemain, l'équipage qui viendra prendre le vol doit se référer pour voir si c'est les carences qu'il avait constatées la veille, si elles ont été corrigées ou pas. Si elles n'ont pas été corrigées, il ne peut pas voler avec l'avion. Il dit non, cet avion, voilà ce que j'ai présenté comme carence hier, ce que j'ai réservé comme carence hier. Je constate malheureusement que ça n'a pas été fait. Donc cet avion ne peut pas être volé. Et cet avion se trouve à ce moment-là dans un état de non-navigabilité. Parce qu'il y a justement quelque chose. Bien que l'avion peut décoller et partir, mais puisqu'il y a des carences qui ont été constatées, c'est pour ça que je lui ai dit qu'en fait, le langage, c'est un état de navigabilité, pas un avion d'occasion.
Pas
un avion neuf. Oh, c'est un avion neuf. On dirait qu'il n'est pas en état de gravité parce qu'il y a un check qui n'a pas été fait.
Donc,
Mais il y a
beaucoup plus de
risques. Maintenant, je viens à la notion du vieillissement des avions.
Oui.
Voilà ce qui se passe en Europe. En Europe, on achète des avions, on les exploite. Quand on exploite un avion, chaque année, on doit comptabiliser le nombre d'heures de vol de cet avion. Ça dépend du nombre d'heures de vol de l'avion. Ici, chez nous, je crois que vous le savez bien, prenant les cas de Eobora ou les compagnies qui existent, CAA, je ne sais pas qui, quand vous essayez de
totaliser,
n'existe plus. Vous totalisez les heures d'avions qui volent localement. Ils font peut-être 3 fois Lubumbashi, 2 fois Goma, mais par jour. Par jour, qu'est-ce qu'ils font? Tout au plus, 4 heures, 6 heures, 8 heures maximum. Par jour.
8 heures de vol.
8 heures de vol. Qui s'assoit Lubumbashi, c'est 2 heures. Retour, ça fait 4 heures. Si c'est 2 fois, qui s'assoit Lubumbashi, ça le fait 8 heures par jour. Et si vous prenez le 8 heures, vous multipliez par 360 jours, vous arrivez à peine à 1000 heures par an. Il faut, si vous volez chaque jour, si vous volez chaque jour, or nos avions ne volent pas chaque jour. Par contre, en Europe, les avions, c'est chaque jour qu'ils volent. Ils vont jusqu'à 18 heures, 20 heures par jour de vol. Ça fait que
un avion. Alors, nos avions ne volent pas chaque jour, mais qu'est-ce qui explique nombreux crashs enregistrés à travers la République là.
Non, le crash, ça c'est un autre morceau, c'est un autre aspect, on va en parler.
Cela est lié à l'aspect technique, peut-être le contrôle ou des appareils défectueux.
Non, voilà. Je disais tout à l'heure que l'état de navigabilité d'un avion exige un contrôle permanent. Il faut un programme de maintenance, il faut. Des mécaniciens au sol qui sont expérimentés. Et puis dans les programmes, la compagnie doit dire qu'est-ce qu'il est capable de faire sur l'avion.
Alors les techniciens en question doivent être engagés par la compagnie.
Non. Quand la compagnie achète un avion et qu'il doit l'exploiter au pays, on exige d'avoir un programme de maintenance de son avion. Dans ce programme de maintenance, il dit ce qu'il peut faire comme entretien sur l'avion. Et ce dont il est capable de faire, ça signifie en fonction des actes, de ce qu'il a comme personnel de maintenance, ce qu'il a comme outillage, ce qu'il a comme structure mise en place pour pouvoir faire l'intervention sur l'avion. Bien entendu, nos compagnies ne peuvent pas tout faire. C'est ainsi qu'ils ont parfois des contrats avec d'autres modules qui s'occupent de l'entretien d'avions. C'est ainsi que vous entendez que telle compagnie a un contrat avec Zobour, avec une société de Zobour, pour telle maintenance, c'est à Zobour que l'avion va partir. Pour telle maintenance, c'est à Addis Abeba que ça va partir. Pour telle maintenance, c'est en Europe que l'avion va partir. Parce qu'en fait, il n'a pas la capacité technique qu'il faut pour en tenir, pour faire tous les entretiens sur l'avion. Mmh. Et c'est justement ça qui nous manque dans beaucoup de compagnies. Mmh. Et parfois, même celles dont nous sommes capables de le faire, on ne le fait pas correctement. Et alors, c'est ça le rôle justement de l'AAC. Donc c'est pour ça que l'autorité de l'aviation civile est là justement pour vérifier si tout le monde fait son travail correctement.
Alors vous avez dit les conditions, premièrement il faut l'aspect juridique, il faut avoir les statuts, le numéro d'identification, le numéro de commerce.
Voilà.
Après cette étape, vous avez dit il faut des avions, il faut des appareils.
Les aspects techniques, et puis les aspects opérationnels.
Oui.
Technique, ça signifie qu'il faut avoir les avions.
Combien il faut avoir combien d'avions pour démarrer?
Les avions, on les achète en fonction du marché qu'on a eu là-bas. Vous allez exploiter quoi? Quel réseau? C'est pas une étude préliminaire.
Mm-hmm.
Parce qu'en fait, le transport aérien, c'est le produit du transport aérien, il est instantané. Il n'est pas stockable. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si vous avez les gabelots, c'est le petit boutique à la cité,
oui.
Vous avez assez de marchandises, si vous ne vendez pas aujourd'hui, vous les vendez demain. Vous les vendez dans un mois. Pour le prix, vous allez réajuster compte tenu de la parité monétaire sur le marché.
Mm-hmm.
Par contre, le produit en transport, c'est les sièges que l'on offre à la clientèle. Donc, c'est instantané. Si votre avion a 150 places, et que le seuil de rentabilité est à 120 places, par exemple, donc ça signifie que quand vous avez 120 passagers,
mm-hmm.
ça vous permet de couvrir le seuil de coût de rentabilité de votre avion.
Mm-hmm.
Bon, si au lieu de prendre 120, vous prenez 60 passagers et vous décollez avec l'avion. Ça signifie qu'il y a une perte que vous ne pouvez pas récupérer. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que le produit en transport est instantané et n'est pas stockable. C'est ainsi que quand vous achetez des avions, il faut faire l'étude du marché. Ça signifie qu'il faut savoir que quand vous avez achetez du marché, est-ce que votre avion, quand il va être exploité,
vous allez exploiter quel réseau,
est-ce qu'il est rentable ou pas.
Mm-hmm.
Et malheureusement, il y a beaucoup de compagnies qui achètent qui ne font pas vraiment d'une manière rigoureuse
l'étude du marché au préalable.
Voilà. Je crois que vous savez ce qui s'est passé dans ce pays. Il y a des compagnies qui allaient à Tsikapa à un moment donné, en bout de main. Vous vous rendez compte quand il y a 10 avions qui atterrissent à Tsikapa en une journée, à votre avis, au retour, ces avions vont transporter quoi? Et quel est le trafic de Tsikapa qui peut exister que 10 avions atterrissent à Tsikapa chaque jour? C'est ainsi que vous avez entendu parler, par moment, quand les avions arrivent à Tsikapa au retour, au lieu de payer 100 dollars le trafic, il y en a qui baissent jusqu'à 20 dollars, 30 dollars.
Jusqu'à 20 dollars.
Bon,
parce qu'il n'y a pas de passage.
Est-ce que c'est rentable?
Oui.
C'est la preuve que quand on achète des avions, on doit les acheter en fonction de l'équipe du marché. Donc, quand on fait l'étude du marché, on finit par succomber. Parce qu'en fait,
ça, c'est l'aspect opérationnel.
Dans l'aspect opérationnel, il y a autre chose. C'est, en fait, quand on achète des avions, il faut avoir l'équipage. Il faut avoir le personnel formé, qui a les qualifications. Le personnel commercial. Toutes ces personnes doivent être formées. Parce qu'en fait, il y a la sécurité à bord de l'avion. Dans un avion, ce sont des passagers qu'on prend à bord. Donc, il faut les sécuriser, il faut les mettre dans des conditions telles qu'ils puissent revenir encore dans votre compagnie. Donc, les personnes doivent être formées, ils doivent être compétents, ils doivent avoir les qualifications et les licences qu'il faut pour exercer la fonction. Quand on charge un avion, ce n'est pas n'importe qui va charger un avion. Je crois que vous savez, ce n'est pas de n'importe comment qu'on va charger un avion. Nous voyons tous les camions qui viennent du Bandung, du Bazaï, comment ils roulent sur la route. Je crois qu'on ne peut pas se permettre ça dans un avion. Donc,
oui, il y a certains avions, on a pris où il suffit de négocier avec quelqu'un, voilà, on fait passer vos marchandises.
Voilà, justement.
Il y a trop de négociations.
C'est pour ça que je dis sur le plan opérationnel, le chargement d'un avion doit se faire selon des règles. C'est pour ça qu'il y a les aspects opérationnels de l'avion.
Mmh.
Donc, on ne peut pas changer n'importe comment. Et celui qui est chargé, ça doit avoir les qualifications pour savoir, connaître l'avion, savoir que son chargement se fait dans telle règle et telle norme. Pour que la sécurité soit sauvegardée.
Mmh.
Parce qu'en fait, l'objectif, c'est la sécurité des passagers et des personnels à bord.
Quelles sont les conditions requises pour démarrer une compagnie d'aviation? Stanislas Mwamba, directeur général adjoint du groupe d'études des transports et l'invité de Capi Service. Vous avez des questions, des préoccupations, composez le 081 890 63 94. Mmh.
Pour s'informer, de plus en plus d'internautes choisissent RadioCapi.net. Chaque mois, vous êtes plus d'un million à nous suivre sur www.radiocapi.net et votre avis nous intéresse. Chaque jour, une question d'actualité est à la une du site, plusieurs propositions. Exprimez votre opinion. Écoutez les résultats de cette consultation sur l'antenne chaque jour à 8h45 et après les infos de 16h30 sur radiocapi.net.
Quelles sont les conditions pour démarrer une compagnie d'aviation? Vous êtes, les sujets vous intéressent, n'attendez pas les dernières minutes, appelez-nous déjà au 081-890-63-94. Nous avons une question de Justin Mzé d'Awa, il nous écrit depuis Arou, dans la province orientale. Il dit, il est à Kampala actuellement, il dit, quelles sont les conditions requises pour installer une grande compagnie de Boeing à Arou, par exemple? il est de là, il veut savoir comment, qu'est-ce qu'il faut faire pour installer une grande société avec de Boeing.
Bonjour M. Justin, je suis ravi pour la question que vous posez, mais je ne sais pas si les conditions que vous voulez donner, je vous les donne pour la RDC ou bien pour les pays où vous vous trouvez actuellement.
Pour Arou, bien sûr, pour la RDC.
Je pense que les conditions sont presque les mêmes. Il doit y avoir dans ce pays-là une autorité ministérielle qui a en charge la matière de l'aviation civile, comme ici c'est nous. D'une manière générale.
Donc, vous voulez dire que c'est l'autorité de l'aviation civile qui délivre l'autorisation de fonctionnement?
Non, s'il vous plaît. Parce qu'il y a d'abord la procédure. On doit s'adresser à l'autorité qui a l'aviation civile entre ses mains. Et l'autorité politique qui a l'aviation civile, c'est le ministre des Transports et des Voies de Communication. Et c'est celui-là qui, en fait, délègue ce pouvoir à l'autorité de l'aviation civile, qui va maintenant étudier les dossiers et définir comment la compagnie peut exploiter dans ce pays. Et les conditions, je crois que vous l'avez défini tout à l'heure, je peux le rappeler si vous voulez, et les conditions, c'est de partir sur trois volets. Le premier volet, c'est l'aspect juridique. Il faut que la compagnie dispose, que ce soit juridiquement reconnue, quel est le statut, quel est l'identification nationale, etc. Quelle est les capacités voulues pour justement exploiter. Quel est même un capital libérable pour pouvoir se faire. Parce que vous avez un coût très cher, il faut un capital pour pouvoir les exploiter. Ça, c'est l'aspect juridique. Et ce sont ces aspects qui vont être examinés par l'autorité de l'aviation civile. La deuxième condition, c'est les aspects techniques. Les aspects techniques, ça consiste à avoir des avions. Des avions en état de navigabilité. Et ces avions, ils sont en état de navigabilité.
Combien, par exemple
je ne peux pas dire combien. Les avions seront définis en fonction de l'étude du marché et du réseau que l'on veut exploiter. On ne peut pas exploiter le transport, on ne peut pas exploiter si c'est le réseau domestique. Ça dépend de combien de lignes que vous allez exploiter. Bon. C'est dommage qu'on commence avec un seul avion. On ne peut pas exploiter le réseau domestique avec un seul avion. Parce que qui a la demande? Si c'est un vol, si c'est un transport régulier, dès qu'il y a moins de personnes, ça signifie que ça s'arrête. Et la clientèle s'en va. Donc, on ne peut pas commencer avec un seul avion.
On peut commencer avec combien? Avec 5 ans. 5 appareils.
Je crois. C'est dans l'ordre de grandeur. Ça peut être 5. Ça dépend de l'étude du marché, c'est que vous voulez exploiter. Et même la capacité des avions, quand tu dis les bouillies, les capacités de l'avion est fonction de l'étude du marché. Qu'est-ce que vous voulez exploiter? Vous n'allez pas prendre 747 pour exploiter le marché domestique. Vous n'allez pas prendre 767 de nouvelle génération ou la 380 pour exploiter le marché domestique. Donc, on achète les avions en fonction de l'étude du marché, du trafic sur le marché que l'on veut exploiter. Alors, la troisième condition que je disais tout à l'heure, donc il y avait les conditions, les aspects juridiques, les aspects techniques et les aspects opérationnels. Ça signifie que vous avez l'équipage qu'il faut en place. Et ces équipages doivent avoir les qualifications qu'il faut. Et il faut savoir que ces qualifications répondent aux normes de l'OACI.
Parce qu'en fait. Et où trouver les techniciens qualifiés?
Où trouver les techniciens qualifiés? Non. C'est un business, c'est du mal. Ils peuvent venir n'importe où, pourvu qu'ils remplissent les conditions. Il n'est pas dit que ça va se mettre.
Nous avons des écoles ici sur place qui forment des techniciens
pour
dans ce secteur.
Voilà, ça dépend. Il y a des écoles qui ont formé des techniciens au Congo. Mais est-ce qu'il en existe aujourd'hui? Mais il y en a très peu. Parce qu'en fait.
On les forme où?
Il y a un institut de l'ISTA qui forme les mécaniciens avions, qui en avait formé à l'époque, et qui a repris cette carrière.
Parce qu'en fait. Supérieur de technique d'aviation.
Elle avait formé Zadis, elle avait arrêté, mais elle a repris de nouveau cette formation. C'est la seule c'est la fête pratiquement qui forme ce genre de techniciens pour l'aviation. Bon, pour le pilotage, à l'aéroclub, à l'époque, on formait des pilotes privés, mais je crois que ça ne fonctionne plus comme avant. Par exemple, Andolo.
Andolo.
Oui, oui, Andolo. Mm-hmm. Ça ne fonctionne plus comme avant. Il en existe aussi à l'intérieur, à l'époque, il y en a déjà à Lubumbashi, je crois, à Kananga aussi, mais ça, je crois que ça fermait, ça ne fonctionne plus comme à l'époque avec la situation que nous connaissons. Donc, bon, ça fait que la plupart des pilotes qu'on a pour le moment, mm-hmm. ce sont des particuliers qui, en fait, avec leurs moyens, ils vont payer leur formation à l'extérieur. Ils vont aux États-Unis, ils vont en Belgique, ils vont en France, ils reviennent avec leur licence, avec leur qualification. Et à ce moment-là, ils se présentent dans des compagnies. On voit si on peut.
Mais généralement, dans la plupart des compagnies que nous avons ici, les pilotes ne sont pas congolais.
Justement, c'est à cause de ça, parce que justement, il n'y en a pas beaucoup qui. La formation d'un pilote, ça coûte. Pour nous citer que c'est l'école de Bruxelles, si vous y allez, c'est au moins 400 dollars par heure de formation. Alors, je ne sais pas si ça la portée de tout le monde.
Vous avez suivi votre formation là-bas?
Si, moi, je suis venu à l'école nationale d'aviation civile de Toulouse. Je suis venu à l'aviation civile. Là, c'est prévu dans la formation des ingénieurs. On a prévu la formation des pilotes en même temps. Je l'ai fait à l'époque parce que je suis un
à Toulouse en France.
En France, oui, à Toulouse en France. Je l'ai fait en 1979 quand j'étais étudiant. Mm-hmm. Mais depuis quand je suis rentré ici, ce n'était pas ma carrière d'aller faire le pilotage. C'était pour que les ingénieurs d'aviation civile.
Donc, vous êtes ingénieur.
Je suis ingénieur d'aviation civile. De Toulouse, oui. Oui, ils avaient fait quelques 25 heures de vol sur les Robins. Ce sont des petits avions comme le Cessna à Toulouse. Mais quand je suis arrivé ici, à l'époque, il y avait des petits avions en euros là-bas. Je voulais aussi aller m'entraîner. J'ai posé la question, mais c'est 200 dollars par heure.
$200 par heure.
Oui, le salaire qu'on me payait ne pouvait pas me permettre de cette aventure-là. Oui. Par contre, nos collègues français qui étaient entrés dans l'administration française avaient 30 heures payées par le gouvernement français chaque année des heures de vol. En fait, ils ont continué à voler tout en travaillant comme ingénieur dans le plusieurs secteurs d'aviation civile. Mmh. Voilà.
Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour relancer toutes les écoles de formation, les ingénieurs,
Non, le problème, c'est qu'en fait, le pilote est utilisé par des opérateurs privés, pas par l'État. Il est utilisé par l'opérateur privé.
Est-ce que l'État... Surtout qu'il n'y a, bon, a pas des compagnies d'ingestion.
Voilà, il faut qu'il y ait des compagnies fortes, qui a une demande vraiment potentielle. Il a existé une école à un moment donné au Gabon, qui a été financée par l'OACI à l'époque, qui a essayé de former aussi des pilotes, des mécaniciens, etc. Malheureusement, c'est les États qui devaient contribuer pour le fonctionnement de cette école. Et vous savez, quand vous mettez nos États pour financer le fonctionnement d'une institution, souvent il y a toujours des failles dans les contributions. C'est ainsi que cette école qui a vu le jour, qui aurait dû continuer jusqu'à aujourd'hui à former justement ce genre de pilotes, à fermer ses portes.
Bien, nous avons un auditeur depuis Colosie, dans la province du Katanga, Jean d'Ambosch. Bonjour.
Bonjour, merci. Bonjour à l'invité ainsi qu'à tous les auditeurs de la radio Castille.
On vous écoute.
J'ai quand même une question et je voulais que l'invité puisse vraiment me rassurer.
Oui.
Parce que il y a vraiment beaucoup de crashs qui se passent ici au Congo.
Oui.
Je voulais un peu savoir, est-ce que la RDC dispose d'un équipement bien approprié pour faire un contrôle d'un avion? Parce que les crashs qui se passent ici, vraiment, c'est déplorable.
Ok, en fait, le contrôle technique des avions, c'est du ressort de l'autorité de l'aviation civile. L'autorité de l'aviation civile a été mise en place. Il y a un décret qui l'a créé, qui a créé la loi. Décret présidentiel qui a créé la loi dans l'an 2010. Et en 2011, il y a une structure de l'aviation civile qui a été créée par un décret du Premier ministre, qui a mis en place l'autorité de l'aviation civile. Mais cette institution, pour fonctionner correctement, il doit se baser sur une réglementation. Une réglementation conforme aux normes de l'OACI. Au moment où je vous parle, tous les textes ont été préparés et doivent être signés. Donc, il y a des arrêtés ministériels, il y a des arrêtés interministériels, il y a même des circulaires que l'autorité de l'aviation civile doit signer. C'est une exigence. C'est même parce que tous les trois mois, l'autorité de l'aviation civile reçoit l'audit des experts de l'OACI qui viennent ici au Congo et qui voient comment la structure mise en place est en train d'évoluer. Malheureusement, tous ces textes ont coïncidé avec la situation que vous avez connue au pays. Ça fait qu'il y a eu un peu les élections, etc. Ça fait qu'il n'y avait aucun ministre qui pouvait s'engager à signer tous ces documents pendant cette période-là. Au moment où nous parlons, nous pensons que ça va s'accélérer.
Vous voulez dire qu'actuellement, c'est difficile
parce
qu'il y a un contrôle technique des appareils sur place ici.
Pas que tous les trucs réglementaires ne sont pas
encore signés.
Ne pensons pas encore signés. Je pense qu'ils le feront bientôt. Mais c'est du ressort de l'autorité de la version civile.
Bien. Ouais. Romain est en ligne depuis Kananga. Bonjour.
Au
Kassai Oriental. On vous écoute, Romain. Bonjour.
Ok, bonjour. Je voulais savoir, pour un passager qui veut voyager à partir de bon avion, comment peut-il reconnaître que cet avion est tellement navigable? C'est-à-dire, le contrôle a été bien attiré et puis ça peut l'amener à destination. À qui il peut s'intéresser?
Merci pour la question. Je pense que cette question-là, même si tu prends un avion de Paris vers Bruxelles, je crois que tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir si l'avion est en état de navigabilité ou pas. Je crois que tu es un client comme n'importe qui. C'est comme. Il y a quand même à un moment donné, il faut faire confiance aux institutions, aux opérateurs économiques qui sont dans le pays. Mais dire qu'au moment de monter dans un avion, il faut que tu saches si l'avion est en état de navigabilité, c'est une question assez délicate.
Peut-être l'état extérieur, la présentation de l'appareil, ça doit rassurer.
Ce n'est pas l'état extérieur qui est fait. On peut avoir un avion bien peint et tout, mais qui n'est pas en état de navigabilité. Même les accidents n'arrivent pas seulement qu'au Congo, ils arrivent partout dans le monde. Vous connaissez les Paris-Rio, avec des Airbus. Dont les dossiers continuent jusqu'à aujourd'hui. Chaque jour, si vous écoutez RSI ou TV5, partout dans le monde, il y a des avions qui crachent. Donc, ce n'est pas un problème de. Il faut quand même avoir conscience. Sinon, si on n'a pas la moindre conscience, c'est. La question que vous posez est pertinente. Nous savons qu'il y a des étrangers dans ce pays qui, pour faire Kinshasa ou Lubumbashi, ne montent pas dans nos avions. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent Ethiopian ou Kenya Airways, ils font Kinshasa jusqu'à Nairobi. De Nairobi, ils vont à Lubumbashi, parce que Kenya va jusqu'à Lubumbashi, pour éviter de monter dans les avions. Je ne sais pas si vous êtes à même de le faire, parce que ça a un coût. Voilà.
Bien. On va peut-être poursuivre une prochaine phrase. Nous rappelons que vous êtes le directeur général adjoint du groupe d'études des transports.
Voilà.
Inspecteur du ministère des Transports et Voies des Communications. Merci et à la prochaine.
Ok, merci. C'est à moi de vous remercier de m'avoir associé à cette émission. Je vous en prie. Oh,